Vous écoutez On lit pour vous.
Annabelle Grenon-Fortin, la troisième conseillère en défense des droits, voit enfin la victoire. Un texte de Aline Vancon-Pernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Annabelle Grenon-Fortin est la troisième et dernière des organisatrices communautaires au volet défense des droits à avoir travaillé sur le dossier de la pénalité discriminatoire au régime de rente du Québec, le RRQ. Elle a eu la chance d'être en poste à l'annonce du retrait de la pénalité faite par le ministre des Finances, Éric Girard, le 12 mars 2024, et de profiter pleinement de la victoire finale. Il n'en est pas moins qu'elle aussi a connu des moments de doute et de déception avant de vivre le revirement final. Annabelle a repris le dossier à son arrivée à MémoQC en novembre 2021. Elle se souvient que, quelques mois plus tard, en janvier 2022, le projet de loi 17, qui modifiait la loi sur le régime de rente, était entré en vigueur. Les bénéficiaires y voyaient une baisse de la pénalité qui passait de 36% à une variation entre 18% et 24%. Annabelle, de par sa formation de juriste, avait déjà lu beaucoup de lois, ce qui lui apportait une longueur d'avance pour tenter de comprendre les modifications que le projet de loi 17 apportait à la disposition en vigueur. La spécialiste décrit celle-ci comme « obscure et incompréhensible ». Le projet de loi était constitué de centaines de pages pas claires. Les avocats en charge de l'affaire au tribunal hésitaient, eux, sur la manœuvre à adopter face à cette nouvelle disposition. Ils ne voulaient pas trop embarquer et contester la disposition au tribunal, mais nous avons dû le faire. J'ai talonné maître la porte, explique la juriste qui avait déjà 5 ans de droit derrière elle. L'expertise d'Annabelle est arrivée au bon moment dans le fil de la contestation de la pénalité. Son insistance a permis de faire avancer les choses en simplifiant le travail des avocats. Un dossier difficile qu'elle a maîtrisé rapidement. Annabelle s'est vite entichée de ce dossier si intéressant qu'il est devenu son dada. C'est un dossier que j'ai maîtrisé très vite. Il était complexe, mais on était en présence d'une discrimination limpide. Le gros du travail avait été fait. Nous avions déjà reçu l'avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui avait établi l'aspect discriminatoire. J'étais vraiment impressionnée par le travail que MémoQC avait déjà abattu dans ce dossier, raconte-t-elle. Outre l'aspect judiciaire, Annabelle a poursuivi les démarches politiques. Elle voulait comprendre pourquoi les partis d'opposition n'avaient pas réagi à l'adoption d'une telle modification de la loi. Les élus se sont fait dire par le gouvernement que le projet de loi 17 était une avancée pour les bénéficiaires du régime et ils n'ont pas posé plus de questions. L'organisatrice communautaire a aussi tenté de rejoindre les autres organismes et regroupements communautaires, mais n'a pas reçu plus d'informations sur la question. Pendant ce temps, Annabelle et MémoQC ont continué de soutenir les nombreuses demandes d'aide et de soutien individuel qui affluaient encore. Malgré les tentatives de participation aux nouvelles consultations publiques sur le RRQ organisé par la Commission des finances publiques les 8, 9 et 14 février 2023, MémoQC n'est pas invité. Il a fallu attendre la rencontre avec le député Haroun Boisy, qui y siégeait, pour enfin avoir un allié à l'Assemblée nationale. Il a eu au début des difficultés à comprendre tout le dossier, mais cette rencontre a été importante. Il nous a bien soutenus, commente Annabelle. Après la décision du tribunal, entre joie et déception. Le 28 juillet 2023, le tribunal administratif du Québec a rendu sa décision. La pénalité codifiée à l'article 121.1 LRRQ est discriminatoire sur la base de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous avons été contents de la victoire pendant un mois. Mais quand le gouvernement a contesté la décision en Cour supérieure, on s'est dit « c'est reparti pour un tour ». Entre-temps, il y avait un roulement au niveau des avocats dans le dossier et plusieurs partiront très certainement à la retraite prochainement. À la Commission des droits de la personne, on en était au troisième juriste depuis le début de l'affaire. Cette nouvelle saga judiciaire est paralysante, constate Annabelle, déçue. Le monde politique a fini par réellement s'en mêler et appuyer le mouvement qui a largement pris sa place au sein de la population. Un groupe populaire constitué de personnes touchées par la pénalité est créé. Ce sont les Invalides au front. Ses membres multiplient les pressions. Lors de la webconférence de MémoQC sur le sujet fin 2023, le compte Zoom explose, se souvient Annabelle. On sentait de l'incertitude sur les modifications à la LRRQ qui allaient entrer en vigueur en 2024 et sur les recours judiciaires. Même les réponses données par les avocats conférenciers étaient incertaines et personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Le 31 octobre 2023, MémoQC participe à une conférence de presse multipartisane à l'Assemblée nationale où tous les partis d'opposition ainsi que divers groupes communautaires et citoyens demandent l'abolition de la pénalité. Le rôle de MémoQC a été important. C'est grâce à nous que tous les groupes ont été présents. Nous avons insisté pour que la conférence de presse soit multipartisane, précise l'organisatrice en défense des droits. C'était devenu insoutenable pour le gouvernement. Jusqu'au dernier moment, avant l'annonce de la suppression de la pénalité, Annabelle ne croyait pas à la victoire. Devant le silence du gouvernement, les rencontres restées sans réponse, il était difficile d'y croire. J'avais l'impression de pelleter dans le vide dans ce dossier-là. Mais la victoire au tribunal a été notre plus gros joker. On voyait les gens harceler les députés et les médias. Nous avons fait un gros travail pour démystifier le sujet. Les gens récupéraient notre mémoire et s'en servaient comme référence. Les députés faisaient appel à nous pour des infos. Le nombre de journalistes que j'ai instruits sur le sujet et qui ne nous citaient pas dans les articles, c'était très frustrant, se souvient Annabelle. C'est au moment où Haroun Boisy nous a dit dans la salle de briefing avant le point de presse d'octobre « Je pense qu'on va l'avoir, parce que là c'est rendu insoutenable » que j'ai finalement ressenti de l'espoir. Annabelle Grenon-Fortin, la dernière en charge du dossier, reconnaît que les étoiles se sont alignées pour finalement obtenir un impact bénéfique. L'organisatrice communautaire de MémoQC est très fière d'avoir participé à cette lutte. J'étais incrédule. J'avais de la misère à croire à la victoire. C'était trop beau. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur. Le ministre ne s'était jamais engagé ni investi dans le dossier depuis le début. C'est la victoire la plus impressionnante de ma jeune carrière. Et je remercie Walter de m'avoir fait confiance pour parler au nom de l'organisme lors des conférences de presse. Je suis également reconnaissante envers mes prédécesseurs dans ce dossier, se réjouit-elle. C'était Annabelle Grenon-Fortin, la troisième conseillère en défense des droits, voit enfin la victoire, un texte de Aline Vancompernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
À la TD, on s'implique pour vous aider à aller de l'avant. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 27 mai 2024 dans le magazine Fugue. Voilà plus d'une dizaine d'années maintenant, le groupe Banque TD s'installait au coin des rues Sainte-Catherine et Atatecan. La TD a été la première banque en Amérique du Nord à offrir des avantages sociaux à ses employés ayant des conjoints de même sexe. C'était en 1994, et cela marquait le début du soutien indéfectible de la TD envers la communauté et ses clients et clientes de LGBTQ+. Pour en savoir plus sur les pratiques quotidiennes en lien avec l'inclusion de la diversité, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la succursale de la TD dans le village, Alexandre Joline, qui nous parle de son implication personnelle dans la communauté et celle de son équipe. Tous ceux et celles qui viennent dans le village durant la Fierté Montréal sont à même de constater le dynamisme qui règne au kiosque de la TD lors des journées communautaires avec des drag queens, des employés souvent déguisés, des jeux, de la musique, etc. Tout cela ne se fait pas tout seul. Ça n'arrive pas comme par magie. C'est grâce à la participation et au travail acharné de gens de la succursale et du regroupement des employés d'ELGBTQ+, de la TD. Une preuve de la grande ouverture de cette institution bancaire. Alexandre Géline est directeur depuis presque 2 ans de cette succursale. Il s'y plaît beaucoup en raison de l'ambiance qui y règne, et ce, en plein cœur du village. J'ai commencé à travailler dans cette succursale en 2017, après avoir occupé plusieurs postes ici ainsi que dans d'autres succursales, dit-il. Je suis quelqu'un de très impliqué. Je fais maintenant partie du regroupement des employés d'ELGBTQ+, depuis plus de 4 ans, et je suis également gouverneur à la Fondation Émergence depuis plusieurs années. Je fais aussi partie de l'équipe qu'on appelle Deal Team, avec Martine Roy, qui est directrice régionale au développement des affaires d'ELGBTQ+ pour le Québec et l'Est du Canada, poste qu'elle occupe depuis 5 ans maintenant. Le Deal Team est un programme mis en œuvre par la TD dans tout le Canada. Il s'agit de connecter des gens d'ELGBTQ+ pour le développement des affaires, pour les soutenir, poursuit Alexandre Géline. Ça peut être un individu, une entreprise, une organisation. Par exemple, soutenir un individu qui désire acquérir une première propriété ou encore un entrepreneur qui veut ouvrir une entreprise de rêve. On veut que les gens réussissent, qu'ils aient du succès. On va voir comment on peut les aider à atteindre ce rêve, à mettre sur pied leur entreprise, etc. C'est ça, le Deal Team. C'est très gratifiant de travailler là-dessus. Les gens à la TD sont enthousiastes, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire le saut et de me joindre à eux. Une succursale proche de sa communauté. En tant que directeur de succursale, Alexandre Géline nous indique qu'il y a 2 mandats à cette succursale située dans le village. Notre premier mandat est de servir la communauté. Nous avons des collègues très ouverts. Nous ne sommes pas tous membres de la communauté d'ELGBTQ+, mais nous sommes tous animés par la passion d'aider les gens. Le deuxième aspect est d'aider nos propres collègues dans l'affirmation de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. On a appuyé une personne dans sa transition et on a tellement aimé cette personne qui était contractuelle qu'on a rendu son poste permanent avec nous. C'est un exemple de ce qu'on fait à la TD. Je suis un homme gay et c'est valorisant de faire partie d'une telle équipe diversifiée. Nous sommes aussi une succursale dite communautaire, c'est-à-dire que nous avons une approche humaniste envers une clientèle avec laquelle on a établi une certaine confiance. On le voit, par exemple, le premier du mois. Lorsque certaines personnes viennent changer leur chèque, on voit qu'elles ont de la misère. On prend un peu plus de temps avec elles. On essaie d'être le plus près possible de notre clientèle. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Nous sommes une banque. Mais nous avons une approche qui est de les guider, de leur consacrer plus de temps et d'être plus humains. On essaie de faire une différence pour les personnes qui viennent à notre succursale, ajoute-t-il. Un autre exemple de l'implication de la TD et de cette succursale est l'activité de collecte de fonds « Un goût pour la vie » au profit de la Maison d'Erel, qui prend soin des personnes malades et en perte d'autonomie vivant avec le VIH-SIDA. La formule est simple. Vous allez manger dans un restaurant et, à la fin de la soirée, l'établissement verse 25 % des profits à l'organisme. Mercredi 17 avril dernier, Alexandre Geline avait organisé une soirée au Saint-Hubert du village, juste en face de la banque. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, confirme-t-il. C'est une très belle cause. On a travaillé avec Saint-Hubert, mais aussi avec d'autres commerçants du secteur pour créer des liens. Et cela a eu un bel écho dans la communauté. Évidemment, on participe aux journées communautaires de Fierté Montréal. On est très impliqué avec cet organisme. La fierté est un moment très attendu à chaque année et on a beaucoup de plaisir à le faire, toute l'équipe ensemble, dit-il. La TD est d'ailleurs partenaire et parraine plus de 176 événements de la fierté en Amérique du Nord et pas seulement de grands événements comme à Montréal, Toronto ou Vancouver, mais aussi de plus petites organisations. Je suis personnellement gouverneur de la Fondation Émergence depuis 6 ans et la TD soutient leur programme pour que vieillir soit gay afin d'aider les personnes de ELGBTQ+ vieillissantes, souligne Alexandre Geline. À la TD, on fait en sorte d'accompagner les gens à chaque étape de leur vie. Par exemple, dans la vente de leur maison jusqu'à leur entrée en résidence de retraite, on désire ainsi boucler la boucle pour ces gens-là. On essaie de leur faciliter les choses, de les aider dans ce moment important de leur vie pour que ces personnes soient rassurées. En fait, nous sommes là pour aider la communauté, on est là pour aider les gens du quartier et pour s'impliquer dans la communauté avec divers organismes communautaires. C'est notre principal objectif, en tant que succursale de la TD, de conclure l'énergique Alexandre Geline. C'était à la TD, on s'implique pour vous aider à aller de l'avant, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 27 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Poulain, écrivaine à la rescousse. Une entrevue réalisée par Claudia La Rochelle, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Tout le monde perd à la guerre. Telles sont les paroles de Rachel, l'enseignante au primaire du jeune Théo, quand il lui demande qui gagnera le conflit armé qui sévit en Ukraine. Théo, c'est le héros de Semer des soleils, nouveau livre choc de l'écrivaine jeunesse André Poulain, qui est, comme la plupart des enfants, aux prises avec des questions trop souvent laissées en suspens, faute de réponse des adultes désarmés que nous sommes. Pour apaiser, les histoires, bien sûr, savent souvent venir à la rescousse. Le 24 février 2022, après des mois de tensions entre Moscou et Kiev, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Depuis, les pires horreurs ont été commises. Hélas, ce n'est pas fini. Par les nouvelles radiophoniques entendues dans la voiture, des images attrapées sur Internet entre des visionnements de leurs youtubeuses et youtubeurs préférés, difficile d'y échapper, mes enfants de 7 et 10 ans ont pris un peu connaissance de l'ampleur du drame. Dans la cour d'école aussi, quelques bribes d'informations plus ou moins fiables ont été prononcées de la part de copains stupéfaits, sûrement inquiets aussi. Puis vint le bal des questions. C'est où l'Ukraine? Est-ce que les Russes sont les méchants? Combien de morts? Tués avec quel type d'armes? Est-ce que les enfants aussi sont ciblés? Ils font quoi si leurs parents meurent? Où peuvent-ils se cacher? Pendant combien de temps encore? À part leur répondre que nous sommes à l'abri et privilégiés chez nous, je me suis demandé de quelle manière leur répondre. Jusqu'où aller dans les détails? L'écrivaine André Poulain, mère d'une gamine devenue grande, avait elle aussi été happée par les événements en Ukraine. Citation. Dans les premiers jours de cette guerre, je regardais les nouvelles chaque heure. J'étais bouleversée et obsédée par une question. Comment des humains peuvent faire ça à d'autres humains? Je tapais sur les nerfs de ma famille en parlant trop. J'ai voulu écrire un roman sur la guerre pour une raison égoïste, pour lutter contre mon propre sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, au Canada, pour aider les Ukrainiens qui vivent sous les bombes? Fin de citation, raconte-t-elle. Puis, elle s'est demandé comment aborder le délicat sujet auprès d'un jeune lectorat. Sans leur cacher la vérité, sans les entourlouper, sans les prendre pour des tatas. Rares sont ceux qui y seraient parvenus avec autant de doigté. Idem pour les illustrations, à la fois crues et sans embâge, mais jamais déplacées d'Enzo. Ils font d'ailleurs une belle paire, ces deux-là. Depuis leur collaboration à l'album « Il n'y a pas de place chez nous » en 2016, et dans lequel les jeunes frères Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre à bord d'un bateau surchargé, affrontant l'inconnu et le danger. Citation. Selon le sociologue français Feu Robert Escarpi, il faut outiller les enfants pour vivre dans un monde où il n'y a pas de justice, pas de paix. Écrire ce livre m'a donc semblé nécessaire pour développer la tolérance, l'ouverture aux autres. Avoir une connaissance minimale des conditions de vie des peuples est nécessaire pour établir la tolérance aussi. Cette démarche de sensibilisation et d'ouverture sur le monde est d'autant plus pertinente que le Canada accueille beaucoup de réfugiés et d'immigrants. Fin de citation, précise-t-elle. Les adultes, ces imparfaits. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans l'écriture de ce prodigieux roman graphique en vers libre, une approche narrative originale au Québec où il s'en publie très peu. Rares aussi sont les livres jeunesse qui traitent des effets de la guerre sur des enfants qui vivent dans un pays en paix. Dans « Semer des soleils », le conflit armé est donc présenté du point de vue de Théo, un enfant d'ici témoin des horreurs dans un pays lointain, avec, en filigrane, la question qui hante tout le monde – pourquoi les humains font-ils la guerre? Si le récit met de l'avant l'absurdité de la tragédie, il ne donne pas de réponse facile ou de solution toute faite, bien que la finale offre des pistes d'action pour trouver un peu d'apaisement et contrer le sentiment d'impuissance. Citation. J'ai aussi choisi de présenter des adultes qui ne savent pas tout, qui se trompent et qui n'ont pas les réponses aux questions posées par l'enfant. De ces adultes imparfaits et vulnérables, on en voit peu dans les romans jeunesse. Fin de citation, ajoute l'autrice franco-ontarienne, à qui l'on doit aussi, entre autres, le très grand succès populaire et critique, La plus grosse poutine du monde. Dans Semer des soleils, le père de Théo s'avoue désemparé, impuissant, comme nous tous. Devant le silence de son père, Théo revient à la charge. Mais pourquoi? Pourquoi les humains sont-ils si méchants? Son père pousse un profond soupir. Je ne sais pas, Théo, je ne sais pas. Théo s'impatiente. Mais papa, ce n'est pas une réponse, ça. Son père s'impatiente aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La guerre est complètement, totalement, absolument insensée et on n'y peut rien. Est-ce qu'on prive les enfants de leur innocence? En leur parlant des atrocités de la guerre? Citation. Il n'y a jamais un bon moment pour apprendre aux jeunes que la cruauté et la méchanceté existent. Et bien sûr que je me suis demandé comment parler de quelque chose d'aussi absurde sans les traumatiser et si je pouvais, par exemple, utiliser le mot torture ou génocide. Pas simple non plus de décrire l'anxiété générée par la guerre chez les enfants sans rendre mes lecteurs anxieux pour autant. Fin de citation, rassure l'écrivaine. Toujours, cette phrase de l'autrice française Marie-Aude Muraille qui lui revenait en tête, sorte de guide bienveillant pendant l'écriture. Citation. Ne pas désespérer la jeunesse, il faut toujours laisser une lumière allumée. Fin de citation. Des mots aussi qui, sans dévoiler le punch, ont certainement orienté la chute de son histoire parsemée de tournesols tournés vers le soleil. Parce qu'à un moment donné, dans ce type de récit sur fond de tragédie, il ne reste que la promesse de l'aube à laquelle se raccrocher. Durant l'insupportable attente d'une issue qu'on souhaite prochaine, heureusement, l'imagination d'André Poulain et d'Enzo devient un baume précieux auréolé d'espoir. C'était André Poulain, écrivain à la rescousse, une entrevue réalisée par Claudia Larochelle, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Merci beaucoup, c'est important. Un texte de Thérèse Boisclair, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir. Merci à la journaliste Stéphanie Marin pour son article « Pas de prison à la maison pour un homme qui a donné un coup de poing à sa conjointe enceinte », paru le 7 avril 2024. Je n'aurais jamais pu croire qu'en 2024, il nous restait autant de chemin à faire en ce qui concerne la violence conjugale. Grâce à la transmission de l'information, nous apprenons le calvaire vécu par cette femme et par ses enfants. Nous apprenons aussi que la violence la vise de nouveau et s'adresse aussi à son nouveau conjoint. Nous apprenons aussi que l'homme qui est accusé de voies de fait, de harcèlement criminel et de possession illégale d'armes à feu sera condamné à 18 mois de prison, à purger dans la collectivité et à une probation de 2 ans. C'est tout simplement incroyable. Cette journaliste, en diffusant cette information, a su mettre en lumière la nécessité de continuer la sensibilisation sur un tel fléau impliquant une femme qui essaie de reprendre sa vie en main pendant que son ex-conjoint lui indique qu'il n'a pas peur de la loi. Bien qu'il y ait loin de la coupe aux lèvres, nous apprécions le fait que ce jugement ait été porté en appel et que la cour d'appel l'ait rectifié. C'était « Merci beaucoup, c'est important ». Un texte de Thérèse Boisclair, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir.